lire avec vous un texte dans l'évangile de Jean. Ce sera le seul texte que nous lirons, les autres textes viendront par mémoire. Jean, chapitre 10, et quand on dit à un pasteur Jean 10, de suite il y a clac, c'est le bon berger. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on ne s'est pas du tout consulté, informé, mais tous les chants étaient dans la ligne de ces quelques pensées que nous allons partager ensemble. Jean chapitre 10, verset 7. Jean chapitre 10, verset 7. Vous avez trouvé ? Oui. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis... Mes lunettes sont pas propres, donc je vois pas. Je suis, c'est bien. Retenez bien ce mot, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs, des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis, oh là, déjà, fatigué. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira, il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Amen. Verset 27. Mes brebis entendent ma voix, je les connais, elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père, que le nom du Seigneur soit béni. Ce matin, c'est une bonne nouvelle, savoir que nous sommes dans la main du Seigneur et que nul ne peut nous ravir, sauf une personne, nous-mêmes. Quelle est la disposition de notre cœur ? Dieu a tout prévu. On a parlé du bois, on a parlé de l'épine. Je crois que le Seigneur a tout accompli, il met tout à notre disposition. Mais que faisons-nous? Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Le texte continue en disant, il entrera et il... Ah non, mais je vous pose des questions ce matin, hein. Je n'aurais pas travaillé tout seul. Hein. Et il... Alors il y en a qui disent ressortira et d'autres disent sortira. Et le texte dit, il entrera et il sortira. C'est-à-dire, je le rendrai libre. Je ne l'enferme pas. Je ne le mets pas dans un cadre restrictif, dans des principes que les religions savent faire pour enfermer et faire peser un joug, mais une liberté en Christ. Et on va s'arrêter quelques instants sur ces quelques pensées. Il trouvera des pâturages. Le voleur, lui, vient pour dérober, enlever notre joie, notre paix, égorger, nous faire perdre l'assurance et l'expression de l'assurance de la vie éternelle, détruire. Ce qui a pu être construit pendant des mois, des années, il est capable, l'ennemi, de le détruire. Mais le Seigneur nous dit ce matin, moi je voudrais vous dire que si vous me faites confiance, nul ne vous ravira de ma main. Que le nom du Seigneur soit béni. L'apôtre Paul dira aux chrétiens de l'église de Galates, « Vous courriez bien, qui vous a arrêté ? Qui vous a sorti du chemin ? Littéralement, qui vous a bousculé pour qu'à un moment donné, vous ne soyez plus sur la ligne vers le but ? Et vous savez que le mot péché veut dire « manquer le but ». C'est pas voler, c'est pas mentir. Ça, c'est les conséquences. Mais quand on manque le but de la marche vers celui qui a donné son Fils afin que nous ne périssions point mais que nous ayons la vie éternelle, quand nous manquons ce but, après les conséquences. On devient hypocrite, voleur, menteur, etc. Je passe, vous connaissez la liste. D'ailleurs, l'apôtre Paul dira un peu de levain, fait lever toute la pâte, il ne faudra pas grand-chose pour que les choses s'enveliment. Je suis venu pour que mes brebis aient la vie, et je ne voudrais pas qu'elles l'aient dans une petite portion, mais qu'elle l'est en abondance. Amen. Alors je m'arrêterai sur quatre remarques. Vous pouvez me montrer votre main avec les quatre doigts. Soyez rassurés, quand je serai au quatrième, vous pourrez aller manger. Quatre. La première remarque, je vous l'ai dit de suite, on parlera du salut, on parlera de la restauration, on parlera de l'espérance, puis de l'appel. Donc c'est pas difficile, hein, j'ai les quatre, hein. Vous aussi? Le premier point, le salut. Je sais pas si vous avez remarqué, Jésus dit, je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il ne parle pas simplement d'un moment où, comme un noyer que l'on arrache au flot, mais il parle d'une dimension éternelle. Il sera sauvé pour l'éternité. Où plaçons-nous notre confiance pour l'éternité? Dans une forme de réincarnation? Dans toutes les dérives sectaires que le monde peut nous proposer? Ou dans la promesse que l'Évangile nous laisse? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus. Pour les Juifs, ça a été une défaite. On ne pensait pas qu'il mourrait. Même pour les disciples, on pensait qu'il allait triompher, prendre le royaume et vaincre les Romains. Et le Père avait décidé qu'il fallait un agneau, une victime, pour payer le prix de notre châtiment. Et le prix de notre châtiment, ce ne sont pas nos efforts, ce ne sont pas nos rites, ce ne sont pas nos traditions, ce ne sont pas nos religions. Celui qui a payé le prix, c'est Jésus sur la croix. Et je voudrais ce matin, Seigneur, que tu renouvelles ma foi. Dans cette simplicité, Jésus nous parle du salut. Jésus dit, je suis la porte. Et la porte, c'est quelque chose d'important. Vous savez que quand Dieu a sorti le peuple d'Israël du pays d'Égypte, de l'esclavage, il est dit, du haut du ciel, Dieu a entendu le cri et la souffrance de son peuple. Moi, je suis déjà heureux de savoir que Dieu n'est pas indifférent. Vous pouvez me faire un grand sourire et dire « tout va bien ». Mais si au fond de votre cœur, il y a une souffrance, s'il y a un problème, Dieu le sait. Et Dieu a voulu sortir son peuple. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à chacun, chaque famille, de sacrifier un agneau. Et lorsqu'il y a eu ce sacrifice de l'agneau, ils ont pris le sang. Et où ont-ils mis le sang? J'essaie de me souvenir. Sur le linteau et les poteaux de la porte. Jésus dit, je suis la porte. Et je veux mettre sur votre porte à vous une marque, la marque du sang de l'agneau. Afin que quand l'ange destructeur va passer pour détruire de manière horrible les premiers-nés, là où il y a la marque du sang, il y aura le salut. Et ce matin, je ne cherche pas à savoir depuis combien d'années j'ai pris un quelconque baptême. Je ne sais pas si je suis un ancien combattant des églises évangéliques de Pentecôte. Ce que je veux savoir, si ce matin encore j'ai la marque du sang de Christ sur ma vie, si je suis capable d'être réconcilié avec mon père, si je suis capable d'être réconcilié avec ma sœur et mon frère, si je suis capable de prendre le pain et le vin en prenant au sérieux la notion de réconciliation et de pardon, afin que la prière sacerdotale soit une force pour ma vie. Père, tu pardonnes comme nous pardonnons. Tu pardonnes comme nous pardonnons. N'oublions jamais la deuxième partie. Que Dieu nous pardonne ce matin, parce que nous pardonnons. Amen, hein? Vous savez, c'est Jésus qui dira, ceux-ci le reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Vous regarderez dans les œuvres de la chair, les deux tiers des œuvres de la chair, c'est tous les problèmes relationnels. Et dans l'Église, quelle qu'elle soit, la majorité des problèmes sont des problèmes relationnels. Et le Seigneur nous montre qu'au travers de son sang, il nous montre qu'au travers de son œuvre, il y a non seulement le pardon de mes péchés, mais la puissance de réconciliation pour nous amener à être en paix avec Dieu, ne pas nous laisser écraser par la culpabilisation, la puissance de nous réconcilier avec notre frère et notre sœur. Non, je ne céderai pas. C'est pas moi qui ai tort, c'est lui. Mais Jésus n'a pas attendu que nous soyons convaincus d'être dans le péché pour donner sa vie. C'est lui qui a fait le premier pas. Et je voudrais ce matin que le Christ imprime dans ma vie ses sentiments. Alors je pardonnerai. Alors j'ouvrirai ma porte, j'ouvrirai mon cœur. Que son nom soit béni. Si vous demeurez dans ma parole, dira Jésus, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Et là, les Juifs qui avaient cru en lui, il n'y a que les Juifs pour faire ça, lui répondent, attends Seigneur, on n'est pas esclaves nous. On est des enfants d'Abraham. Aujourd'hui, on dirait, on n'est pas esclaves. On est des enfants de la Pentecôte. On est des évangéliques. Mais le Seigneur ne vous demande pas de quelle tribu, de quelle religion. Il nous demande, est-ce que le sang, la marque du sacrifice est sur votre vie? Deux, est-ce que vous êtes affranchis du péché? Parce que si c'est une loi qui pèse, je dois pas, il faut pas, et parce que je craque encore, je cède encore, je me tiens en cachette, je deviens hypocrite, est-ce que je suis libre? La liberté, c'est laisser non pas l'œuvre de la chair dominer sur ma vie, mais l'action bénie du Saint-Esprit pour qu'il triomphe sur ma vie, parce que moi, je ne le peux pas. Mais lui, il le peut. Alors, Seigneur, non seulement laisse les marques du sang sur ma vie, mais donne-moi la victoire pour être affranchi. Et le Seigneur ajoutera, parce que si le Fils Jésus vous affranchit, vous serez réellement libre. Amen. Amen. Deuxième point. On y arrive, hein? Qui connaît le psaume 23? 2. Ah, ça. C'est pas grave, à la sortie, je vais me mettre là, je vous fais réciter à tous le psaume 23. Je connais des psaumes par cœur. Quand j'étais adolescent, chaque fois que je faisais une bêtise, ma grand-mère me faisait copier des psaumes. 100 psaumes, ça marque. Je copiais toujours un certain psaume qui n'a que 2 versets. 117. Et là, ma grand-mère a dit, ça va changer, maintenant tu copieras le psaume 119. Je ne le connais pas par cœur, il faut que je recommence. C'est pas cela qui est important. L'Éternel est mon berger. Alors pourquoi vous remuez tout le temps? Les Français, c'est extraordinaire. Ça va bien, les chrétiens, on a cette marque. On pensait qu'il y avait que le peuple d'Israël dans le désert qui murmurait en permanence. Mais non, on a un petit peu ce côté, nous, contestation. Non, j'ai pas l'impression que vous êtes tous français ce matin. Hein? Non, brésilien. D'accord. L'Éternel est mon berger, il me conduit, il me dirige. Alors j'insiste sur ces deux mots, il me conduit, il me dirige, il restaure mon âme. Vous connaissez tout cela? Puis à un moment donné, il dit, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Amen. Alors je voudrais quand même qu'on soit au clair. C'est pas l'extrême onction, c'est-à-dire que l'on donne au moment extrême. Vous savez que je gère en même temps une maison de retraite. Et quand une personne ou une famille me dit « on aimerait que vous fassiez l'extrême onction à ma maman », je dis « j'ai pas le récipient ni l'huile pour, mais je veux bien venir faire l'onction ». Parce que l'onction du berger, c'était quelque chose d'extraordinaire. Ce n'était pas une once d'huile, un petit verre à liqueur. C'était une corne d'huile, un litre, vous imaginez? J'ai envie de vous faire l'onction à la sortie. Le berger, il y avait la bergerie, et il y avait comme une entrée voûtée, faite de pierres ramassées sur le terrain pour dégager l'espace herbeux, et le berger s'asseyait dans cette entrée. Et le soir, il faisait rentrer les brebis dans la bergerie. Et les brebis étaient obligées de passer sur ses jambes, près de lui. Et là, il commençait à poser sa main sur sa tête. « Tu es fiévreux, toi. Oh là, t'as mal à ta patte. Mais tu t'es mis une épine, c'est rouge. » il prenait soin de chaque brebis, et quand il sentait qu'elle était fiévreuse, alors il prenait la corne d'huile, et il faisait l'onction. L'onction n'est pas pour vous qui êtes les meilleurs. L'onction, c'est justement parce que nous avons la fièvre, la blessure, la morsure. Nous sommes passés par des moments difficiles d'injustice, de mépris, de rejet, et nous sommes découragés. Alors le bon berger est là à la porte. Et Jésus dit, je suis la porte. Je veux faire l'onction sur ta vie. Parce que je veux te montrer que si tu ne peux pas triompher par ta volonté, par mon bon esprit, je peux rafraîchir ta vie ce matin et te restaurer. Alors je dis, Seigneur, tiens-moi dans ta main ce matin. Rafraîchis-moi. Ce n'est pas parce que je suis le mieux placé, parce que je suis le meilleur des chrétiens. Dans cette course-là, nous serons toujours les derniers. Mais parce que je suis ton enfant, Seigneur, tu me tiens dans ta main. Et nul ne nous ravira de ta main. Amen. Guérison. C'est pas un mot magique. La plus belle des guérisons, c'est la guérison intérieure. Oui. Pour avoir cheminé dans ce travail de guérison intérieure, que de blessures qui remontent loin jusqu'à l'enfance et qui ont laissé des empreintes d'injustice, d'amertume, de blessures, qui ont fait de l'homme ou de la femme que je suis aujourd'hui quelqu'un qui n'est pas guéri et qui aura toujours un moment de révolte. Et il faudra peut-être qu'un simple détail pour que ça éclate, pour que ça pète, comme on dit. Et le Seigneur guérit intérieurement. Je témoigne qu'il est capable de libérer des dépressions, de l'angoisse. Il est capable de guérir les choses du passé. Même si ceux qui nous ont fait du mal sont morts, le Seigneur peut encore triompher sur nos mémoires. Et ce matin, je voudrais vous dire qu'il est merveilleux, ce Seigneur. Nos vies, des uns, des autres, si chacun parlait de sa vie, de son enfance, on serait peut-être étonné. Mais je peux dire que le Seigneur est fidèle. Il m'a guéri des souffrances de mon enfance. Et aujourd'hui, il y a la paix et la joie dans mon cœur. Et le plus beau témoignage que l'on donne, c'est pas celui de son Église, c'est celui de son Seigneur qui apporte la paix dans les cœurs. Guérison intérieure, guérison aussi du corps. Mais aussi, délivrance d'une certaine liberté qui est une fausse liberté. Elles entreront, ces brebis, elles sortiront. Une liberté. Moi, je suis en train de travailler ce sujet parce que je crois que les chrétiens sont trop souvent prisonniers. Tu dois pas. On a pensé que c'était pour les églises, les judaïsants, pour les juifs, les catholiques. Il faut savoir que les judaïsants ont rajouté aux 10 commandements 600 préceptes. C'est ce qu'on appelle toute la tradition orale, qui, pour ces gens-là, ont autant de valeur que la tradition écrite, que la loi. Mais toutes les religions font de même. Et quand, dans nos relations, on dit à quelqu'un, « Mais tu sais, faut pas faire ça, tu sais, la Bible ne veut pas », c'est penser qu'à un moment donné, c'est par nos efforts. Ça, c'est le légalisme, un légalisme qui pèse encore. Tu dois pas. Si tu veux prendre le baptême, faut plus que tu fumes. Ah ? Alors est-ce que ça voudrait dire que je peux ? Vivre selon l'esprit, c'est vivre dans la liberté, mais pas dans la liberté de faire tout ce qu'on a envie de faire, mais dans la liberté d'être délivré par le Seigneur. Et c'est pas la même chose. Vivre dans les désirs de la chair, c'est être prisonnier. Et il y a des chrétiens qui pourront passer toute leur vie à se battre avec leur chair. Et le Seigneur dit, si nous marchons par l'esprit, alors nous ne marcherons plus selon la chair. Mais c'est parce qu'on essaie de ne plus marcher selon la chair qu'on perd l'esprit. Vous me suivez là? Ou j'efface le tableau? La priorité, c'est pas essayer de faire des efforts pour donner l'apparence, mais de dire, Seigneur, je te confie ma vie. Je suis conduit par l'esprit, c'est-à-dire dans la soumission. Et je vis et je marche parce que j'ai fait des choix. Que le Seigneur nous encourage dans cette dimension de la vie de l'esprit, afin que nous ne soyons pas de ceux qui, dans un légalisme, sont fiers d'obéir. Comme ce pharisien qui regardait le publicain, « Je suis pas comme cet homme. Moi, je prie. Moi, je jeûne. Moi, je vais au culte. Moi, je vais à la réunion de prière. » Mais c'est pas cela la force du croyant. La force du croyant, c'est « Je suis libre. » Parce que Jésus m'a affranchi. Alors, une parenthèse, ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus venir au culte. Mais ce n'est pas la réunion qui me sauve. Et puis, je pense que le travail de la présence du Seigneur et de sa parole m'amènera cette force extraordinaire d'aimer les autres. Parce que si j'aime que mes copains, alors j'ai mon fan club. Mais le Seigneur me donnera d'aimer tout le monde. Et ça, c'est son esprit qui peut me le donner. Que le Seigneur triomphe de nos vies. Mais il y a non seulement le légalisme, mais il y a aussi le libertin. Oh, le libertin! Ceux qui pensent que parce que Christ nous a donné la liberté, on peut faire n'importe quoi. J'entendais récemment un jeune, rassurez-vous, il n'est pas de Moissac, sinon je ferai attention, qui m'a demandé si je pouvais faire la prédication de leur mariage. Au début, il me dit « Est-ce que vous pouvez nous marier ?» J'ai répondu « Un pasteur ne marie pas les gens. C'est le maire qui marie. Un pasteur réclame la bénédiction. Il faut remettre les pendules à l'heure de temps en temps. Mais il demande une bénédiction sur ceux qui s'approchent, font confiance et sont libérés des désirs de la chair. Sinon, ça porte un nom. Et puis, il me contacte et il me dit une bonne nouvelle. Ma fiancée est enceinte. C'est le sceau et l'approbation de Dieu sur notre union. Ouh ! Il avait fait la prédication avant moi. C'est pas le sceau de Dieu. Mais ce qui me gêne dans cette affaire, ce n'est pas qu'il commette une erreur ou qu'il ait eu un moment d'égarement. Ce qui me gêne, c'est qu'il cherche une approbation sur le désir de la chair. Et c'est quand on excuse ses faiblesses qu'il y a problème. Si on dit « Seigneur, je me suis trompé, j'ai commis une erreur, je viens devant toi », alors là, moi, je sais que Dieu donnera sa bénédiction. Et là, je suis capable de prêcher. Mais si on n'est pas capable de reconnaître son erreur et sa faute, on est en train de s'enfermer dans les œuvres de la chair. Si nous marchons par l'Esprit, alors nous aurons dompté les œuvres de la chair. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Vous savez ce que dit Paul ? Il va fort, hein ? Aux Galates, vous êtes séparés de Christ, vous qui cherchez la justification par les principes de la loi et par vos efforts. Vous rendez compte? Vous êtes séparés de Christ. Et il ajoute cette phrase qui est rare dans le Nouveau Testament, vous êtes déchus de la grâce. Non pas parce que vous commettez des erreurs, ça arrive à tout le monde, rassurez-vous. J'ai dit à quelqu'un un jour, si vous cherchez des défauts, je vais vous aider, je vais vous en faire une liste. Mais reconnaître ses fautes, c'est être au bénéfice de sa grâce. Les justifier, les cacher, c'est s'enfermer dans sa bulle et se séparer de Christ et prendre le risque d'être déchu de la grâce. Bon, je ferme le sujet parce que je sens que ça ne vous plaît pas. Quoique, troisièmement, l'espérance, le mot espérance. On va pas le lire, mais vous le lirez tranquillement à la maison, vous le notez sur un coin pour vous le rappeler. Le petit prophète Osée, chapitre 3, verset 16. Pensez à Jean 3, 16, mais chez Osée. Il faut oser le faire. Hein. Osée dit à un moment donné, et il parle du peuple d'Israël comme d'une fiancée, et puis lui dit, hey, « Hé, ma belle, viens au désert, là où il n'y a personne. Viens au désert, là où il n'y a pas de végétation, tu ne seras pas perturbée. Viens au désert et je te parlerai. » Parce que Dieu voulait encore tendre la main à son peuple. Et il dit, si tu reviens à moi, alors je mettrai devant toi une porte d'espérance. Et je souligne à nouveau le mot porte. Une porte d'espérance. Et quelle porte d'espérance ? La vallée d'Achor. même si le nom somme bien, accord, ça vient d'où la vallée d'accord? Bien, je vais vous le dire, la vallée d'accord. Vous savez, quand le peuple d'Israël est rentré dans le pays promis, à l'époque de Josué, à un moment donné, ils ont pris la victoire sur Jéricho. Qui a remporté la victoire sur Jéricho? Certains ont dit, ils ont tellement tapé fort sur le sol avec leurs pieds, ils ont tellement crié fort. Non, non. C'est Dieu qui a fait tomber Jéricho. En sorte, quand ils sont arrivés dans la ville qui suivait, elle s'appelle Aï Tréma. Vous dites comment? Aïe. Vous avez raison. Ils se sont dit, mais avec Jéricho, ça a été une fleur, on va y aller, c'est pas la peine de. Mais Dieu avait posé des cadres. Puis il avait surtout dit, vous ne prendrez rien de ce qui appartient à l'ennemi. Et là, il y a un certain Achan qui a vu des lingots d'or. Vous avez déjà vu un lingot d'or? Oh là là. Il a vu beaucoup d'argent, des vêtements. Oh, alors il a fait ça. J'y étais pas, mais on me l'a dit. Hein. Hop, dans le sac à dos, il est parti. Personne ne l'avait vu. Personne, sauf... Vous savez, vous pourrez cacher au monde entier vos erreurs, vos faiblesses, vos fautes. Vous pouvez vous enfermer dans votre maison, sachant que personne ne vous voit. Et là, Dieu a demandé à Josué, tribu par tribu, qui avait fait cela? Dieu le savait. Et quand il a été question d'arrêter Achan, ça a été le jugement et le châtiment. Et ça s'est fait dans la vallée d'Achor, et ça s'est appelé Achor parce que ça veut dire vallée du trouble. Il avait amené du trouble. Et quand il y a le trouble dans notre cœur, et quand on met le trouble, alors c'est la destruction. Et parfois, pour se justifier, on n'a pas peur d'aller jusqu'à mettre le trouble. Et le Seigneur voudrait nous montrer l'importance de préserver le corps de Christ. Comme on préserve un enfant, même s'il y a des difficultés. Vallée du trouble. Et que dit Dieu à son peuple? J'ai mis devant toi l'espérance parce que je te donne, je triomphe sur le trouble, la vallée d'accord. Et je dis ce matin, et c'est pas facile pour un pasteur de gérer une église, quand il y a des troubles et la vallée du trouble, moi je crois que le Saint-Esprit peut triompher. Parce que souvent le raisonnement est limité. Alors Seigneur, triomphe. Afin qu'il n'y ait plus de trouble dans ma vie, afin que je ne cause plus du trouble dans la vie de ceux qui m'entourent. Amen. Sinon, aïe. 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 Allez, je termine. Quatrième point. Qui connaît l'église de Laodicée? Elle est toujours comme d'habitude, il y en a quatre. L'église de Laodicée, Dieu parle des sept églises, et en particulier pour les signes des temps de la fin. Laodicée était une ville qui s'était, aux yeux des autres, enrichie, et on peut avoir une certaine valeur, mais le Seigneur lui regarde au cœur. Tu te crois riche, mais tu es pauvre. Voilà ce que Dieu dit. Et il ajoute ce site particulier, « Voici, je me tiens à ta porte. » À ta porte. Et je frappe. J'ai un jour frappé à la porte d'une personne qui était en pleine dépression. J'ai entendu le verrou se fermer. C'est une bonne réponse, hein? Enfin, elle était claire, au moins, la réponse. Et j'avais beau appeler, je savais qu'elle avait besoin. Elle a refusé. Je frappe à la porte. Et il ajoute, si quelqu'un entend ma voix... Je vous rassure, hein, on pourrait faire le test. Quand on est derrière la porte, on entend quand même la voix. Ouais, on entend quand même la voix. Donc, il n'y a pas de problème. Seigneur, ce matin, tu m'as parlé, j'ai entendu ta voix. Mais rien n'a changé. Entendre la voix du Seigneur, si rien ne change, ça veut dire être resté derrière la porte et le Seigneur frappe encore. Parce que le but du Seigneur, c'est si quelqu'un entend ma voix, qu'il ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je vais communier avec lui. Et nous avons chanté tout à l'heure. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Même si les tourments, même si la mer se déchaîne, je sais que tu es là. Et la force du Seigneur pour ma vie, pour ta vie, c'est pas d'entendre sa voix chaque dimanche matin, c'est d'ouvrir ta porte. C'est de prendre cette victoire, d'arrêter de te fermer sur toi-même, dans ta bulle, en te rassurant parce que tu es venu à l'église. Mais tu as perdu cette richesse de la communion. Ce matin, ton Dieu ne te demande pas si tu entends sa voix. Ton Dieu te demande si tu ouvres la porte. Parce qu'il a envie de communier avec toi. Parce qu'il a envie qu'au travers du pain et du vin, tu sentes la présence du Seigneur. Et ça se sent, la présence du Seigneur. Quand les disciples d'Emmaüs, sur le chemin, n'y voyaient plus, à cause de la tristesse, incapables de reconnaître que le Seigneur était près d'eux, ils ont dit quelque chose de fort. Notre cœur ne brûlait-il pas lorsqu'il nous parlait en chemin ? Je suis sûr que votre cœur brûle ce matin. Il vous dit des choses, mais il aimerait que vous lui puissiez lui dire des choses. Je t'ouvre mon cœur. Je t'ouvre mon cœur. Je t'ouvre ma porte. Je t'ouvre ma porte ce matin. Parce que j'ai besoin de ta présence, Seigneur. Alors quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, parce que tu es avec moi, Seigneur. Je veux que tu sois avec moi ce matin. Je veux que tu sois dans ma vie, dans mon cœur. Amen. J'aimerais que nous inclinions nos têtes dans la prière.